Bonjour à tous et à toutes, ici les Échos de l'innovation, vous êtes sur Graphite 94.9. Nous réalisons cette émission dans le cadre de l'unité Sciences et Débats Publics. Nous sommes 8 étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne. L'émission du jour portera sur la place des femmes dans l'innovation. Alors, tout d'abord, comment définir l'innovation? C'est le fait de construire, de créer, d'introduire de la nouveauté dans un domaine, en termes d'usage, de coutumes ou de croyances, et aussi dans un système scientifique. Alors, étymologiquement, cela vient du latin des mots « in », voulant dire « dans », et « novare », voulant dire « rendre nouveau ». Donc, cool, l'objectif, c'est vraiment de rendre nouveau quelque chose. Et tout d'abord, nous allons faire un état des lieux, des inégalités hommes-femmes dans l'innovation et notamment dans l'ingénierie. Et c'est Paul qui va nous en parler. Alors, bonjour Paul.
Bonjour David, bonjour à tous. Donc pour vous introduire les problèmes que rencontrent les femmes dans l'innovation, je vais vous donner quelques chiffres clés, histoire de bien se rendre compte des inégalités auxquelles elles font face. Donc pour cela, je me suis appuyé sur un rapport de l'Observatoire des femmes ingénieures, que vous pouvez également retrouver sur Internet. Les données qui vont vous être exposées ici sont issues de l'enquête IESF, c'est-à-dire de l'Association des ingénieurs et scientifiques de France. Donc, vous l'aurez donc compris, on parlera ici exclusivement du domaine de l'ingénierie. Étant tous étudiants à l'UTC, ça nous concerne donc tous directement. Donc voilà, donc dans ce rapport, premièrement, en termes de répartition, il est dit que moins d'un quart des ingénieurs sont des femmes. Il est également dit, et moi personnellement c'est ce qui m'a choqué, c'est que seulement 4% des diplômés ingénieurs étaient des femmes en 1968. Donc il y a un peu plus de 50 ans. Aujourd'hui, ce chiffre est remonté à 28,5%, mais ce chiffre n'a pas réellement évolué depuis 5 ans. Donc c'est toujours encore un problème. Concernant les salaires, à la sortie d'école, elles touchent un peu plus de 2000 euros par an de moins que les hommes. Et en fin de carrière, ce chiffre grimpe même jusqu'à 17 000 euros par an d'écart. Pour la recherche d'emploi, c'est pareil. Le taux de femmes ingénieures à la recherche d'un emploi est supérieur de 3 points par rapport aux hommes. Donc finalement, les écarts sont bien présents, tant sur le plan de la représentativité, des salaires, de la recherche d'emploi et également des responsabilités. Concernant les responsabilités, c'est surtout en fin de carrière qu'on peut voir l'écart par rapport à ceux donnés aux hommes. Cet écart peut grimper jusqu'à plus de 10%. Donc finalement, on retrouve exactement les mêmes discriminations dans le monde de l'ingénierie que dans les autres secteurs de la société.
Merci Paul. Et maintenant, un micro-trottoir avec des étudiants et des doctorants. Ce micro-trottoir a été réalisé à la Fête de la Science par Melchior et Théa.
Trouvez-vous que la place de la femme dans les sciences et la technique a évolué depuis quelques années?
Je pense que oui. Je fais juste une petite comparaison. Il y a à peu près 8 ans, 9 ans, quand j'étais en école d'ingénieur, dans des spécialités comme électrique ou mécanique, il y avait peu de femmes en école d'ingénieur, enfin peu de jeunes femmes. Et là, je vois à l'UTC, il y a presque moitié-moitié femmes-hommes. Donc je trouve que les femmes ont décidé de faire ce genre de formation maintenant de plus en plus qu'avant.
Oui, en effet, puisque avant, les femmes, par exemple, elles n'avaient pas le droit d'étudier les sciences. Elles étaient vraiment réduites à garder les enfants à la maison ou des tâches assez primaires. Alors que maintenant, elles peuvent vraiment évoluer et s'épanouir dans ce type d'activités qui sont très axées sciences et innovation.
Moi, je suis d'accord et je pense que ça doit continuer à se développer parce que même si maintenant les opportunités sont ouvertes aux femmes, peut-être que dans les mentalités, c'est pas encore totalement ouvert. Mm. Du coup, il faudrait continuer là-dessus.
Oui, depuis, je pense, 10 ans, ça a beaucoup évolué. Là, je vois plus de personnes, femmes qui travaillent dans les laboratoires. C'est vrai qu'avant, je pense qu'il y en avait beaucoup moins, c'était très, très rare. Donc, je pense que oui, ça a beaucoup évolué depuis 10 ans environ. Vraiment, là, on ne fait même plus la différence, je pense. Entre femmes et hommes à notre époque.
Il n'y a vraiment plus aucune différence, vous trouvez, c'est ça?
Je pense qu'il y a des différences, mais après, je pense pour quelqu'un qui... Enfin, une nouvelle génération, je pense que les différences, il les verra moins que quelqu'un issu d'une génération plus vieille, en fait.
Oui, quand même, j'ai trouvé que ça a évolué. Enfin, on voit beaucoup plus de femmes, même dans des écoles d'ingénieurs, etc. Mais après, ça reste quand même dans l'idée de tout le monde que c'est un métier plus tourné masculin. Mais ça a quand même évolué, je pense, ces dernières années.
Oui, grave, parce que déjà, avant, moi, quand je vois mes grands-parents, etc., c'est toujours des... Enfin, déjà, les femmes, elles faisaient pas trop d'études et c'était toujours des hommes c'était toujours les garçons qui étaient intéressés par les sciences, la mécanique, la physique, etc. Et on a l'impression que les femmes, elles avaient jamais eu... on dirait comme si elles avaient pas le potentiel d'être intéressées ou d'être plus fortes dans les sciences. Donc du coup, ouais, je trouve que maintenant, je vois plein de filles qui font des études d'ingénieur et je suis contente. Enfin, quand je vois mes amis qui sortent du lycée et qui font des écoles d'ingénieurs ou plus de sciences, je suis contente parce que j'avais l'impression avant que quand je vois mes parents et mes grands-parents que c'était pas le cas.
Je dirais oui parce que c'est comment dire, j'ai l'impression qu'on leur laisse plus de place. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'événements qui sont organisés. Là, rien que dans 2 semaines à l'UTC, il y aura un événement sur la recherche au féminin. Il y en a beaucoup d'incitations à aller voir dans les lycées les filles pour dire regardez, faites des écoles d'ingénieurs, c'est sympa. Donc je pense que oui, il y a vraiment une dynamique qui va dans le sens de laisser plus de place aux femmes à cet endroit-là.
Y a-t-il des femmes qui vous ont inspiré dans le milieu de la science?
Non, en fait, non, pas forcément.
Pas spécialement. Enfin, j'ai pas de femmes qui m'ont. Non, j'ai pas d'exemple.
Il y avait vraiment personne en particulier, que ce soit masculin ou féminin.
Non. Non, il n'y a pas. J'ai pas été inspiré par grand monde, donc c'est compliqué. J'ai été plus inspiré, on va dire, par mes professeurs. Et il y a autant d'hommes que de femmes, mais il n'y a pas de spécificité, quoi.
Oui, moi j'ai ma grande idole, Marie Curie. Je l'adore. Elle est trop forte, je l'ai trouvée hyper courageuse et elle a fait tellement de choses dans sa vie, alors qu'elle n'avait même pas le. Enfin, elle n'avait pas le droit, entre guillemets, parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. En plus, elle venait de Pologne, donc du coup, il y avait la guerre avant à l'époque, et donc tu n'avais pas le droit d'étudier, que ce soit les sciences, que ce soit les lettres, que ce soit quoi que ce soit. Et elle a quand même étudié malgré les interdictions, et elle a réussi à passer outre ses remarques, et elle s'est devenue quelqu'un de très grand et qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà.
J'ai pas de nom.
Est-ce que vous pensez que le manque de femmes donc dans les nouvelles technologies, ça soit un frein à l'innovation?
Oui, je pense, parce que c'est important quand même la mixité aussi, même pour partager les idées. Donc oui, je pense que ça peut être un frein, en effet, et du coup, elles peuvent apporter d'autres idées auxquelles vont pas forcément penser les hommes. Et, donc oui, je pense que ce serait bien qu'il y ait plus de mixité et de femmes dans l'innovation.
Non, pas du tout. Enfin, je vois pas comment ce serait un frein. Pour moi, non.
Oui, je pense, parce que du coup, moins il y a de femmes, moins les femmes vont se dire qu'elles ont le droit ou qu'elles peuvent en fait être dans ce domaine, qu'elles ont l'opportunité autant que les hommes. C'est comme le sport. Enfin, avant, il y avait le foot, par exemple, c'était réservé qu'aux hommes. Et de plus en plus, ça s'ouvre aux femmes. Et donc, de plus en plus, les femmes, elles y participent. Alors que les sciences, c'est encore un peu fermé, c'est vrai. Par exemple, on a un moins grand salaire, par exemple, que les hommes. Ça encore, c'est toujours d'actualité ou des choses comme ça. Et du coup, oui, il faudrait revoir plein de choses pour que les femmes, aujourd'hui, elles se lancent et qu'elles se disent que même... que si elles aiment les sciences, qu'elles peuvent en faire leur avenir, quoi.
Moi, je suis d'accord. Enfin, je pense que c'est forcément un frein à l'innovation technologique parce que ça veut aussi dire qu'il y a la moitié des cerveaux qui sont pas sur le sujet. Et puis aussi, je me dis que théoriquement, peut-être d'une certaine manière, les chercheurs hommes répondent plus d'un côté aux besoins des hommes, et peut-être que s'il y avait plus de femmes qui cherchaient des innovations, peut-être qu'on trouverait des solutions à des problèmes féminins comme les douleurs menstruelles ou des choses comme ça. Et...
Je pense que oui, s'il y a un manque de femmes, ce sera un frein à l'innovation. Je pense que c'est lorsqu'il y a moins de femmes, c'est moins ouvert, sûrement. Et je ne sais pas, mais je pense que oui, ce sera un frein.
Je pense que oui, parce que c'est toujours ça reste quand même la moitié de la population. Donc si tu as la moitié de la population qui se dit qui est sous-représentée, forcément t'as pas ton avis, ton point de vue est un peu biaisé.
Je pense que ça pourrait apporter plus de variété s'il y avait des femmes, parce que parfois elles sont pas forcément, elles font pas toujours peut-être les mêmes activités, puis elles ont peut-être une personnalité un peu peut-être différente, donc ça fait toujours de la diversité, je pense.
Je suis plutôt tendance à être universaliste et à penser qu'on est tous égaux, du coup s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, c'est pas tant un problème, ça va pas poser forcément des problèmes au niveau du résultat. J'attendrai pas à ce qu'il y ait un 50-50 pour que l'innovation soit optimum. Par contre, si effectivement il n'y a que des hommes ou que des femmes, je vais être tenté de dire « Ouais, mais peut-être qu'il va y avoir des dynamiques qui vont aller dans un sens plutôt habituel. » Et donc pour répondre, ça c'est la réponse longue. Et la réponse courte, c'est tant qu'il y a au moins un certain minimum de femmes, non.
Est-ce qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là?
Ça a évolué, mais c'est toujours tellement présent, et le problème c'est que là on n'en parle plus aussi, et ça passe complètement à travers les mailles du filet. On a l'impression que ça n'arrive plus, qu'il y a plus aucune remarque qui est faite là-dessus, alors que c'est toujours vraiment vraiment très 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 présent.
Moi je suis d'accord au niveau des mentalités, et je pense qu'il y a aussi des actions plus concrètes qui pourraient être réalisées, comme par exemple les quotas minimum de femmes, ou comme tu disais tout à l'heure, le faire en sorte que le salaire soit vraiment égal. Je pense que ça pourrait ça aussi changer ensuite les mentalités.
Pas toujours, je pense, mais ça dépend des domaines, mais je trouve que pas toujours. Enfin, c'est pas toujours, il y a pas toujours d'égalité. Enfin, surtout comme je disais, les vieilles générations, elles ont du mal à accepter que des femmes aient des bons postes. Mais avec une nouvelle génération, c'est plus facile. Donc vraiment, ça dépend de ton cadre, d'où tu viens en fait. Dans les universités, c'est plus facile, mais si tu vas dans l'entreprise, il y aura plus de problèmes.
Je pense pas, étant donné qu'elles sont beaucoup moins représentées, mais j'espère et je pense que c'est une tendance qui temps à s'infirmer. Ouais.
Oui, parce que je pense que l'idée, c'est de donner l'impulsion et de montrer à tout le monde que chacun a sa place. Moi, j'ai quand même des camarades qui m'ont dit, quand j'étais au lycée ou en prépa, la prof de physique m'a dit « ne va pas faire ingénieur, c'est pas fait pour toi ». Des profs féminines. Donc, travailler sur ce matraquage qui vise à imposer des métiers par genre, dès le plus jeune âge, en fait, dès les jouets qu'on vend aux gamins. Travailler déjà à partir de là, tout au long de la scolarité, je pense que c'est le plus gros pas qu'on puisse faire, et sans faire de mal à personne, sans imposer des quotas qui poseraient problème parce qu'on n'a pas assez de femmes pour les combler, du coup on n'aurait pas assez de monde dans les conseils d'administration. Voilà.
Dans les 5 innovations que je vais te citer juste après, à ton avis, lesquelles ont été inventées par des femmes? Alors, tu as donc le blanco liquide, la scie circulaire, le wifi, le kevlar et l'essuie-glace.
J'aurais dit le blanco liquide, la scie circulaire, et voilà.
Je sais pas, le kevlar, je dirais le blanco, mais je pense pas. Et les essuie-glaces, peut-être.
Et le piège, c'est qu'elles ont toutes été inventées par des femmes.
Le blanco liquide ou le kevlar?
Alors, je sens que le piège, c'est que c'est toutes des femmes. Mais le Kevlar, ça me dit bien. Le Kevlar, que c'est une femme. Les essuie-glaces aussi. Pour les autres, moins.
Et à votre avis, à l'UTC, combien y a-t-il de pourcentage de filles?
Je dirais 40%.
45%, je dirais.
Je crois qu'on a à peu près 40% de filles.
Je crois que c'est 35%.
Je sais que les plus basses écoles sont à 20 et que nous, on est à 40.
Il y a 37,6% de filles à l'UTC.
Combien tu penses qu'il y a de pourcentage de femmes ingénieures en France?
15-20%.
Je pense qu'on a un bon 20%.
20%? Je crois 30%.
Entre 25 et 30.
Alors oui, il y a 26% de femmes qui sont ingénieures en France.
Et maintenant, écoutons Les Lyonnes de Yannick Noah.
La vie du ciel à ton seau, le jour et la nuit, c'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, Surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines. Porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur. Tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elles ramènent. Dans leur seau bien plein, fatiguées mais toujours sereines. De la terre et des hommes, elles sont les gardiennes. Oui, tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines. Tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines. Tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des reines.
Vous êtes toujours sur Graphite 94.9 dans l'émission Les Échos de l'innovation. Et maintenant, la chronique histoire de Rémi et Élise.
On va maintenant vous parler de l'effet Matilda. C'est le nom que l'on donne au déni ou à la minimisation de la contribution des femmes scientifiques dans l'innovation, dont le travail est souvent attribué à des hommes. Vous allez entendre les histoires de quatre femmes qui ont marqué le milieu scientifique, mais dont le nom a été jusqu'à maintenant maintenu dans l'ombre. Lise Meitner est une scientifique juive à l'origine de la découverte de la fission nucléaire, en 1938. Née en 1878 à Vienne, elle s'intéresse particulièrement aux sciences et aux mathématiques, mais elle ne peut cependant pas étudier avant 1897, date à laquelle l'enseignement supérieur s'ouvre aux femmes en Autriche. Elle deviendra 8 ans plus tard la deuxième femme à être diplômée d'un doctorat de l'Université de Vienne. Après être initiée aux procédures expérimentales pour l'étude de la radioactivité, elle part en 1907 à Berlin pour y suivre les cours de Max Planck. L'université allemande n'étant toujours pas ouverte aux femmes, et malgré l'opposition du physicien à leur éducation, il lui accorde une autorisation spéciale. Lise Meitner se fait rapidement remarquer. Elle commence alors à travailler avec le chimiste Otto Hahn dans les sous-sols du laboratoire de l'Institut Fischer, car il est peu enclin à laisser une femme travailler dans ses locaux. Lors de la Première Guerre mondiale, Lise Meitner s'engage comme manipulatrice d'équipements à rayons X pour les blessés. À son retour du front, elle obtient enfin un poste rémunéré de directrice du département de physique dans un grand laboratoire de recherche. Lise continue ses travaux en physique nucléaire et se penche sur la transition non radiative, qu'elle découvre sensiblement en même temps que le physicien français Pierre Auger et qui prendra son nom l'effet Auger. Malgré l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, qui contraint les Juifs occupant un emploi dans les services publics à démissionner, Lise parvient à conserver son poste du fait de sa nationalité autrichienne. En 1934, Otto Hahn et un autre chimiste, Fritz Strassmann, s'associent à sa recherche sur les réactions nucléaires artificielles et leur travail sera nommé Projet Uranium. Ensemble, ils parviennent à fragmenter de l'uranium en deux noyaux plus légers. C'est le principe de la fission nucléaire, qu'ils découvrent en 1938. Malheureusement, après l'annexion de l'Autriche par le régime nazi, Lise n'est plus protégée. Elle prend la fuite en Suède, pour y poursuivre ses recherches. Une course s'engage alors entre les différents chercheurs en physique nucléaire pour savoir qui découvrira un élément plus lourd que l'uranium. Lise Meitner et Otto Hahn continuent donc à correspondre et à collaborer, et ils vont jusqu'à se rencontrer clandestinement pour discuter des expériences à mener. Ne comprenant pas ces résultats expérimentaux menés sur les isotopes du radium, Otto-Hahn envoie une lettre à Lise. Après avoir décrit ses essais, il écrit, je cite, « Il se passe quelque chose de tellement étrange avec les isotopes du radium que nous ne le disons qu'à toi. Peut-être peux-tu proposer quelques explications fantastiques ? Nous devons éclaircir cela. Réfléchis de ton côté. Si tu pouvais proposer quelque chose que tu pouvais publier, ce serait comme si nous travaillions avec tous les trois. » C'est Lise qui comprend alors le procédé impliqué, qu'ils nommeront ensuite la fission. Aidé par la physicienne, Hahn et Strassmann finissent ainsi par démontrer les théories des noyaux lourds. Malheureusement, quand les deux chimistes présentent le résultat de leur recherche à leur revue Nature Wissenschaften en décembre 1939, Lise Meitner, du fait de la situation politique, n'est pas citée comme co-auteur de la publication. De plus, quand en 1944, Hahn et Strassmann sont récompensés du prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur la fission des noyaux lourds, Lise est tout autant laissée de côté, malgré son importance primordiale dans les travaux de recherche. En pleine Seconde Guerre mondiale, les possibles usages militaires de la fission nucléaire sont préoccupants. La possibilité de former une réaction en chaîne permettant de libérer une immense quantité d'énergie intéresse. Le président François Franklin Roosevelt lance alors le projet Manhattan, auquel Lise Meitner est conviée, mais elle refuse catégoriquement d'y participer. Lorsqu'elle constate l'application de ces découvertes dans la destruction des villes japonaises Hiroshima et Nagasaki par la bombe atomique, elle est prise de stupeur. Elle regrettera, au sortir de la guerre, son comportement et celui de ses pairs, se reprochant d'être restée trop longtemps passive vis-à-vis des utilisations de ses recherches.
Et maintenant, écoutons l'histoire d'Élise.
Elles étaient femmes et noires dans l'Amérique ségrégationniste et sexiste des années 60. C'est l'histoire de trois scientifiques, Catherine, Dorothy et Marie. Trois scientifiques afro-américaines qui ont, à elles trois, permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale en envoyant le premier homme en orbite. Rien que ça. Et pourtant, leur nom et leur histoire ont été oubliés pendant de longues années. Adapté d'un récit historique, le film Les Figures de l'Ombre retrace l'histoire incroyable mais vraie de ces trois femmes maintenues trop longtemps dans l'ombre. Katherine Johnson, le prodige des calculs. À 14 ans, elle obtient son bac avec mention. À 18 ans, elle est diplômée en mathématiques. À 34 ans, celle que l'on surnommera plus tard l'ordinateur humain tombe sur une annonce dans le journal. La NASA recrute des femmes ingénieures pour son département réservé aux personnes de couleur. Elle intègre rapidement, après son arrivée, le département de guidage et de navigation. À 43 ans, elle est réquisitionnée pour calculer la trajectoire de la première mission américaine dans l'espace. Du jamais vu dans un milieu majoritairement constitué d'hommes blancs. 7 ans plus tard, elle est partie prenante de la mission Apollo 11 qui permet le premier vol spatial vers la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, c'est un pas de géant pour l'humanité. Sauf que Katherine Johnson a dû faire bien plus qu'un petit pas et surmonter bien des épreuves pour prouver à ses collègues masculins qu'elle avait sa place parmi eux. Près de 30 ans après son départ à la retraite, en novembre 2015, Barack Obama lui remet la médaille de la liberté, la plus prestigieuse récompense civile américaine. Mary Jackson, l'ingénieure combative. Diplômée en mathématiques et en sciences physiques, elle est recrutée par la NASA en tant que calculatrice sous les ordres de Dorothy Vaughan. Elle a évolué de l'unité d'informatique à celle d'ingénierie et travaille sur une soufflerie supersonique. Mais Marie, ne l'oublions pas, est une femme. Et pour couronner le tout, une femme noire. Et à cette époque, il est encore inconcevable qu'elle puisse accéder au statut d'ingénieur. Elle s'est donc battue à l'encontre des lois ségrégationnistes pour obtenir le droit de suivre un cursus plus poussé en mathématiques et en physique. Son combat fut couronné de succès et suite à cela, Mary Jackson devient la première ingénieure noire de la NASA. Après 34 ans passés à la NASA, elle obtient même le plus haut grade d'ingénieur au sein de l'agence. Jusqu'à sa retraite en 1985, elle travailla en tant que manager dans la formation des femmes et des personnes issues de minorités, auprès du Bureau d'égalité des chances à la NASA. Dorothy Vaughan, l'informaticienne pionnière. Initialement professeure de mathématiques, Dorothy Vaughan rentre à la NASA en 1944. Elle et toutes les mathématiciennes noires de la NASA, en vertu des lois Jim Crow sur la ségrégation, sont parquées dans l'aile ouest où leur mission est d'effectuer des calculs toute la journée à la main. Très rapidement, Dorothy s'impose comme chef de la brigade, mais ne peut être reconnue comme telle à cause de sa couleur de peau. Alors que la NASA se lance dans la conquête spatiale et cherche à envoyer le premier homme dans l'espace, Dorothy sait que les calculatrices humaines seront rapidement remplacées par des ordinateurs. Elle a alors appris le langage de programmation Fortran et de ce fait est placée à la tête de l'aile ouest de l'unité d'informatique. Elle est la première manager noire de l'histoire de l'agence. Figure d'autorité et d'inspiration, Dorothy a marqué son siècle et a laissé derrière elle une trace indélébile sur toutes les calculatrices et mathématiciennes qu'elle a inspirées.
Et maintenant, écoutons un peu de musique. Écoutons 21 Pilots de Hype.
Concern that you walk by like you never heard.
Vous êtes sur Graphite 94.9 dans les échos de l'innovation. Et maintenant, l'interview de Myrène Davila de Philippe, maîtresse de conférence, chercheuse à l'UTC en mathématiques appliquées. Cette interview a été réalisée par Justine.
Pourquoi avez-vous eu envie de devenir ingénieur? Donc voilà.
Oui, bonjour Justine. Alors, j'ai été attirée par les mathématiques assez tôt dans ma vie. J'aimais bien aussi les lettres. Je ne peux pas dire que j'étais... des fois, on se dirige vers une direction, enfin, par défaut. Ce n'était pas vraiment mon cas. J'aimais bien les lettres aussi. J'aimais bien l'espagnol. Je suis hispanophone d'origine. Et donc... je me débrouillais bien dans les deux, mais c'est vrai que les maths, c'était plus ce qui m'attirait. Ça a fait assez... du coup, ça a tracé un chemin assez naturel pour moi. Donc, de faire, du coup, un bac scientifique. Et, je viens de Cuba, donc j'ai fait mes études de lycée et l'université au début à Cuba. Et j'ai continué avec un master ici en France. Donc, je suis venue en France pour le master à l'École Polytechnique. Donc, mais bon, j'étais déjà dans le parcours des maths. J'avais fait, j'ai déjà fait mes études. J'avais une licence et même équivalent master déjà de Cuba. Et puis j'ai continué ici avec un master 1 et master 2 à Polytechnique. Ça fait, je me suis orientée vers la France aussi. Pour la même raison, c'est parce que les maths en France, les mathématiciens français sont très connus. C'est un domaine où on est vraiment fort, bien réputé. Et donc c'est pour ça que je suis venue ici.
On est peut-être de Cuba et peut-être que la question justement des préjugés sur les femmes, comme quoi elles ne sont peut-être pas comme quoi les femmes ne sont pas très bonnes en sciences, justement. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Donc comment vous, en plus qui étiez à Cuba, vous êtes passé au-dessus de ces préjugés et donc pour vous lancer dans ce qui vous plaisait vraiment
J'ai réfléchi pas mal à cette question, les préjugés, comme quoi les femmes ne sont pas très douées pour les sciences. Et je dois avouer que j'ai plus eu conscience de ces préjugés en arrivant en France qu'en étant chez moi à Cuba. Oui, et c'est assez étonnant pour moi, ce constat, parce que je pense qu'en termes d'égalité homme-femme, déjà de débat sur l'égalité, on semblerait être en avance en France, mais je pense que sur certains aspects, on a encore beaucoup à parcourir. Et particulièrement sur l'aspect professionnel, je pense, les différences des salaires.
Et donc, du coup, vous avez dit que dans votre famille, donc votre père, il était dans les lettres, ouais. Et votre maman est dans les sciences. Et donc, justement, est-ce que vous avez été influencée quelque part par votre famille pour faire ces études-là où vous disiez justement que vous étiez intéressée soit par les lettres, soit du coup les sciences. Est-ce que votre famille, elle a exercé une certaine pression, sans que ce soit malsain ou quoi que ce soit, mais une pression dans un ou des deux sens, où ils étaient assez libres, assez bienveillants quant à votre choix?
Moi, je pense que si j'ai une pression, ça a été une pression positive à être... la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que, là, comme j'ai dit, mon père, il est philosophe. Il est prof, bon, maintenant il est à la retraite, mais il est prof de philosophie à l'université, et ma mère en biologie au lycée. Donc, effectivement, c'est ma mère qui était côté sciences, mon père côté lettres, mais tous les deux étaient assez ouverts sur le fait qu'on doit aimer ce qu'on fait. Bon, je pense que c'est peut-être ça qu'ils m'ont transmis, c'est le fait d'aimer son métier et d'avoir la liberté d'aller vers là où ça me motivait, où j'étais intéressée. Donc c'est dans ce sens où la pression a été peut-être plutôt positive. J'ai pas non plus une pression, comment dire, il fallait que je réussisse et que j'ai les meilleurs résultats. Je sais aussi que des fois, on peut avoir tendance à exercer ce type de pression sur nos enfants, sans vouloir peut-être, mais je n'ai pas senti ça non plus. C'est-à-dire que mes résultats étaient, enfin, ils étaient satisfaits de ça, mais c'est surtout qu'ils me poussaient à chercher ce qui me plaisait, ce que j'aimais bien. Donc, voilà, dans mon cas, effectivement, je suis loin de préjuger la femme va vers les lettres, pas du tout.
Donc, est-ce que vous auriez une personne qui vous a inspiré, qu'elle soit ingénieure ou chercheuse, ou pas du tout dans le milieu des sciences, mais juste une personne qui vous a peut-être guidé dans votre parcours ou que vous appréciez, voilà. Ça peut être personnel comme quelqu'un de connu.
J'en ai eu beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, pour lesquelles j'étais admiratif. Hein. Non, ça, je ne sais pas dire en français. C'est ça bien.
Pour lesquelles je suis admirative.
Oui, pour lesquelles je suis admirative et puis qui m'ont aussi encouragée. Et donc, ils m'ont peut-être tracé. Hein. Ben, je pense à une prof en particulier. Quand j'étais au lycée et une prof de maths forcément hein. Là, c'est... et en fait c'était une personne, elle n'était pas ma prof à moi, c'était quelqu'un c'est une amie de la famille on peut dire, mais qui était aussi prof de maths à la fois et qui m'a consacré beaucoup de temps, de son temps libre. Elle a trouvé que j'avais un potentiel ou que je pouvais aller un peu plus loin. Elle m'a ouvert des portes sur des thématiques en maths. Et elle m'encourageait à les suivre, à résoudre certains types de problèmes. Et pour moi, ça a été super. J'ai vraiment, à une époque, je passais mes week-ends, j'allais chez elle, on travaillait. En plus, elle prenait vraiment plaisir. Et c'était des choses que peut-être là où j'étais au lycée, on me poussait pas vers cette direction. Et donc, et c'était une femme. Effectivement, c'était une femme qui avait sa famille, qui avait. Voilà, donc une femme normale, si on peut dire une femme normale, comme moi, comme tout le monde. Et ça fait que, effectivement, je pense que c'est le type de modèle qu'il faudrait qu'on ait plus, qu'on mette plus en avant dans notre société aussi. C'est-à-dire des personnes auxquelles on peut s'identifier. Là, si je pense à mon parcours, effectivement, je trouve pas mal de femmes, puis bon, depuis que je suis en France aussi, des profs de l'école polytechnique que j'ai eu en cours. Je peux mentionner deux ou trois, et j'ai été toujours en fait assez admirative, surtout bon, là en particulier, je suis plus sensible à la question, à des femmes qui ont une famille aussi. Après, c'est un choix particulier de chacun, mais celles qui, en plus d'avoir les enfants et la famille, font le métier et qui excellent dans le métier. Bon, maintenant je suis dans cette peau-là et que je sais que quand on a les enfants, on dort beaucoup moins. Je pense que c'est vraiment des modèles que.
Est-ce que. Alors là, la question, peut-être que vous n'avez pas eu à le faire, mais comment est-ce que vous avez su peut-être vous imposer dans ce domaine très masculin? Est-ce que vous avez eu des problèmes justement dans ce milieu avec certains hommes, peut-être que vous avez des anecdotes à nous raconter, ou est-ce que justement ça a été très, très limpide et que vous n'avez jamais eu de soucis avec aucun personnage masculin dans votre parcours?
Alors, le milieu, il est très masculin. Ça, je suis d'accord. Et encore une fois, je trouve que c'est plus en France que dans mon pays d'origine. Les chiffres, en particulier en mathématiques, dans toutes les disciplines scientifiques, c'est le cas. En mathématiques, encore plus. Et moi, je... Oui, effectivement, il y a des moments où on doit... Pas se plier, tout simplement. Enfin, c'est-à-dire être capable de dire « Oui, c'est un milieu masculin, mais j'ai tous les droits d'être là. » Et puis, c'est pas parce que c'est un homme qui a plus d'autorité, on va dire, par exemple, qu'une femme. pas du tout, qu'il est plus légitime d'être là parce que moi je suis une femme, pas du tout. Mais je crois que j'ai un ego qui est moins grand, enfin plus petit. Donc c'est vrai que face à un ego très élevé, on a tendance à se plier. Et j'ai fait l'effort conscient de dire, non, il n'y a pas besoin de se dire, je vais sortir de ma position pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui a plus envie de la prendre. Non, on est tous légitimes d'être là où on est, si on est là. Et puis des préoccupations aussi, parce que comme je disais, les rôles à la maison ne sont pas les mêmes non plus. Donc des collègues qui vont consacrer moins de temps aux enfants, souvent c'est les hommes en fait. Parmi les collègues qui vont consacrer moins de temps à la famille, c'est souvent les hommes, donc ils vont pouvoir consacrer plus de temps au travail que les femmes. Ça c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie question, qu'il faudrait changer les choses pour que ce ne soit pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison non plus que ce soit la femme qui s'occupe plus de la famille que l'homme. Il n'y a aucune raison. Même l'allaitement, ce n'est pas une raison. Donc, je crois que je n'ai pas d'anecdote précise parce que j'ai aussi tendance à oublier les mauvaises, les mauvaises situations. Mais je suis consciente qu'il faut, oui, je pense que les femmes doivent faire un effort, peut-être plus important des fois, pour être capables de rester légitimes dans leur position et ne pas se faire déplacer que d'autres aient une autorité qui n'a pas de raison d'être sur elle, juste parce que c'est un homme et elle est une femme. Il y a aussi des questions de remarques. Malheureusement, j'ai pas été trop confrontée à des remarques déplacées. Je connais en fait, je connais des personnes qui ont fait face à ça. Et ça, je trouve effectivement assez triste, mais c'est peut-être pas.
À votre avis, du coup, pourquoi notre société a intégré le fait que la femme aurait peut-être moins sa place dans ce domaine que les hommes?
En fait, c'est pas spécifique au domaine des sciences. De mon point de vue, que ça se reflète dans le domaine des sciences, c'est parce que dans le domaine des sciences, on a du pouvoir. On est dans l'innovation. Les rémunérations sont élevées aussi. Bon, je pense que ça aussi, je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence, par exemple, entre la France et Cuba, où j'ai pas vu beaucoup ça. C'est parce qu'ici, c'est lié à la rémunération. Donc, on a une rémunération plus élevée aussi dans certains domaines. Et une rémunération plus élevée aussi si on est un homme. Donc, ça, il paraît que même dans l'académie, il peut arriver. C'est-à-dire que les femmes sont moins payées que les hommes. Ça, c'est. Ça me dépasse. Je comprends pas pourquoi ça arrive. C'est vraiment affreux que ça arrive. Après, ça arrive dans les sports, ça arrive dans plein d'autres domaines. Je pense qu'il y a le fait qu'on est une société patriarcale, que même si on a fait beaucoup de débats, beaucoup d'avancées sur cette question, on reste une société patriarcale. Et là où il y a plus de pouvoir, plus d'enjeux, tout simplement, on va se construire en fait des croyances comme quoi ces domaines-là, il va être pour ceux qui sont plus légitimes d'avoir du pouvoir, qui sont plus légitimes de. Et en fait, il faut aussi penser que les sciences étaient interdites pour les femmes pendant très 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 longtemps. Et donc, si on pense tous les théorèmes qu'on a en maths, la plupart c'est des hommes qui les ont faits. Mais parce que les femmes, c'est pas parce qu'elles n'étaient pas là, elles étaient à côté, mais elles n'avaient pas le droit de le faire. C'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on a un chemin à faire, à parcourir pour vraiment défaire ces idées reçues. Et surtout, je crois que l'influence, elle doit commencer.
Et donc du coup, ça nous amène aussi à la dernière question. Comment du coup vous envisagez ou comment pensez-vous que l'avenir des femmes dans l'ingénierie et donc dans les sciences en général, comment ça, enfin, vous pensez que ça va évoluer ou est-ce que vous pensez que c'est en train de régresser? Est-ce que vous voyez des changements qui ont été faits? Bon, ça vous avez déjà un petit peu répondu, ou des changements à faire? Voilà.
Alors moi je pense que l'effort doit être actif. Alors je m'explique. À un moment donné, quand on a commencé à imposer des règles de parité sur certains domaines, à l'époque, je n'étais pas convaincue du fait que ce soit nécessaire, que ce soit utile. Je me dis, bon, si une femme, c'est une candidate à quoi que ce soit, elle est suffisamment bonne pour être choisie, c'est pas grave qu'on ait des parités dans les comités, par exemple, dans les comités de sélection pour les postes, des choses comme ça. Alors, j'ai beaucoup changé d'avis depuis, et je pense que il faut qu'on impose des règles. C'est pas parce que... C'est pas parce que les femmes sont moins bonnes et que du coup c'est le seul moyen qu'on va avoir de les placer en sciences, dans les postes ici et là. C'est parce que on a derrière nous toute cette histoire qui nous a laissé en arrière, qui fait qu'on n'a pas assez de modèles féminins dans les sciences, qu'on n'a pas le salaire aussi élevé que les hommes, qu'on n'a pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on charge déjà derrière. Il faut que ce soit un effort actif. On ne peut pas juste laisser ça. La société va évoluer et à un moment donné, on va se débarrasser de cette différence homme-femme. Comme on fait, par exemple, en l'académie, il y a des règles de parité pour les comités de sélection pour des postes. On impose certaines règles de parité. Je vous dis, je crois que c'est nécessaire parce qu'on ne pense pas aux mêmes choses. Il faut aussi quand on organise des événements, des conférences, et ça a été prouvé. Enfin, je connais une étude qui a fait une enquête sur cette question. Quand on a des femmes dans les comités qui organisent les événements, on a plus de chances d'avoir des femmes oratrices. On va plus penser à inviter des femmes en tant qu'oratrices. Et quand on voit une femme prendre la parole dans une conférence d'une thématique qui nous intéresse, là encore, on a un modèle. On a un modèle dans lequel on peut se voir refléter, avec lequel on peut s'identifier. Si on voit que des hommes, alors forcément, c'est psychologiquement, on s'identifie moins. Donc il faut qu'il y ait des règles qui soient imposées. Il faut partir de là, en fait. Vraiment, il faut... Parler des sujets, d'autres sujets, je ne suis pas, de manière générale, pour l'imposition des choses, mais je pense qu'on a trop de retard pour se permettre de se dire tout ça, ça va venir tout seul et on va progresser. Ben non, il faut quand même qu'on fasse un effort plus important. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, ils font plus d'efforts aussi sur ce type d'aspect, sur le fait d'avoir des parités dans certains contextes. Une parité imposée, mais cette parité imposée, je pense qu'elle a des conséquences derrière qui vont améliorer la situation.
Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir participé donc à notre émission, à notre programme.
Merci à vous.
Et maintenant, écoutons My Love de Inès.
تسأل أحبابك اللي يحبونك بناموا لي لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني تنساني احتاجك جنبي تلعاني سين جروحي وحزاني أنا مشتاق لعليك يا حبيبي لا تروحي بعيد انت نصيبي وقلبي وحيد انت اللي في قلبي والله انت اللي في قلبي
سلاح بابك اللي يحبونك ناموا لي لعيونك انا بفكر فيك تبعد عني تنساني محتاجك جنبي تلعاني سيني جروحي واحزاني انا مشتاق لعلي
Vous êtes bien sur Graphite 94.9 dans l'émission Les Échos de l'innovation. Et maintenant, Théa va nous animer une discussion autour de justement la place de la femme dans l'innovation.
Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de débat-discussion. Alors il est vrai que dans un premier temps, dans notre époque, tout le monde parle d'innovation, mais pas autant des femmes dans l'innovation. Pourtant, comme présenté au début de l'émission, les données statistiques démontrent bien une disparité entre les genres. Nous allons donc réfléchir ensemble sur les causes et les conséquences de cet écart. Alors, pour cela, commençons par une première question, à savoir si l'inégalité des genres est un frein à l'innovation. Alors, il est clair que oui, car tout d'abord, elle écarte une partie de la société. C'est vrai que les femmes, elles peuvent apporter un point de vue différent, en faisant en sorte que les nouveaux produits répondent aux besoins de l'ensemble de la population et non pas qu'à la moitié qui est constituée d'hommes.
Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai vraiment l'impression que jouer la parité à 100% n'est pas nécessairement une des meilleures solutions qu'on puisse apporter. Parce que imaginons qu'on ait 50% d'hommes et 50% de femmes et que, imaginons, dans ces 50% d'hommes, il y en ait... Un léger pourcentage qui soit beaucoup moins intéressé par un sujet ou qui soit beaucoup moins performant ou habile sur les questions. Je ne sais pas si ça rajoute quelque chose à l'innovation et voilà.
C'est vrai que l'idéal, ce serait de trouver un juste milieu, quoi. Bon, maintenant, on peut aussi se demander qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui les a écartés, justement, de cette société ? Donc tout d'abord, il y a clairement une barrière psychologique. Donc en fait, depuis des siècles, on a dit aux femmes qu'elles étaient inaptes aux sciences. Et quand on répète sans cesse à quelqu'un « oui, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça », on finit par y croire. Donc en fait, la solution, ce serait de casser les stéréotypes sexistes et commencer dès le plus jeune âge, au sein de la famille, au sein de l'école, par exemple, ne pas conditionner les enfants dans le choix de leurs jouets.
En effet, il existe donc une barrière psychologique, mais également des barrières invisibles qui amènent à des causes physiologiques. Par exemple, quand une femme attend un enfant, donc, il est important que son employeur ou ses collègues puissent la soutenir tout au long de cette période, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans certaines entreprises. Également, une autre solution qui pourrait valoir le coup de mettre en place serait... Et peut-être un système plus souple d'aménagement du temps de travail, par exemple.
Oui, voilà, et en fait, il ne faut pas négliger justement le talent des femmes, quoi. Alors maintenant, on va parler de l'initiative des quotas. Est-ce qu'au final, ça va résoudre justement cette disparité entre les genres ? Donc, pour rappel, les quotas, en fait, visent à assurer la parité au sein d'une équipe et d'une entreprise.
Alors, ce qu'on appelle quota ici, c'est un peu ce qu'on entend par discrimination positive. Et moi, ça me pose un peu problème. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, à la fin, pendant les admissions post-bac, lorsque j'ai voulu postuler à l'INSA, à l'INSA Lyon, on était deux à postuler à l'INSA Lyon avec une amie à moi. On était dans la même classe, on venait du même lycée et on avait environ les mêmes dossiers, mais finalement mes résultats étaient un petit peu au-dessus. Et donc on postule tous les deux et on se rend compte que, enfin, à la fin on reçoit nos résultats et elle était prise et pas moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a, allait demander comment ça se faisait. Et en fait, on nous a expliqué que dans le calcul de, pour l'admission, il y a une note qui est attribuée. Et en fait, il y a un coefficient qui est ajouté pour les femmes. Et je trouve que arriver à l'équité, c'est vraiment très important. Mais je pense que du coup, ce principe de discrimination positive, il peut desservir certaines fois certaines choses. Et comme on l'a dit avant, je pense que ce serait plus intéressant de passer par l'éducation et pour du coup encourager plus les femmes directement à demander comme on a parlé avant.
Plutôt que de l'imposer, quoi.
C'est ça.
Alors moi, pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut changer les choses par l'éducation, mais ça prend du temps. Et quelquefois, si on veut casser les codes, si on veut vraiment changer les choses, il faut amener un peu plus de radicalité. Et les quotas, pour le coup, peuvent amener ce genre de choses, où en imposant un certain nombre de femmes et un certain nombre d'hommes, un pourcentage, ça permet de valoriser, on va dire, ceux qui sont discriminés à la base. La discrimination positive, oui, c'est... ça ne plaît pas forcément à tout le monde et ça peut créer des inégalités, des nouvelles inégalités, on va dire. Mais c'est justement pour rééquilibrer la place de la femme, quelquefois, dans certains métiers, dans certaines industries. Du coup, je trouve ça plutôt intéressant de le développer, comme ça a pu être fait, par exemple, en politique, même s'il y a eu quelques dérives, sur le fait qu'on présentait des femmes, mais sur des listes où elles allaient forcément perdre. Du coup, il y avait une parité au niveau de la représentation, mais pas nécessairement dans l'aboutissement, on va dire, de cette parité qui était imposée. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a aussi peut-être plus de moyens qui doivent être donnés pour contrôler, par exemple, l'égalité salariale, pour contrôler tout ça. Ou faire des lois, c'est bien. Faire des quotas, c'est aussi intéressant, selon moi. Mais il faut mettre les moyens derrière pour faire en sorte que ça se passe bien.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que les quotas, ça n'a pas vraiment d'effet miracle sur les comportements. Mais si on combine les deux, à savoir l'éducation et ces initiatives, ces prises, ces lois, etc., je pense qu'on pourra y arriver un jour.
Merci à tous de nous avoir écoutés pour notre première émission « Les échos de l'innovation ». Va suivre la prochaine émission d'ici quelques semaines. Et vous êtes toujours sur Graphite 94.9. Merci à tous et bonne soirée.